France Culture.
Depuis plusieurs mois, l'élaboration des normes et des lois a été particulièrement chaotique en France. Tout a été laborieux et surtout inédit depuis la dissolution, puis les élections législatives et la recomposition de l'Assemblée nationale qui a vu 27% de nouveaux députés occuper ses rangs, puis les renouvellements de cabinets ministériels qui se succèdent aux motions de censure. Tout est bousculé, des personnalités au calendrier et nous avons beaucoup parlé ici dans cette émission des difficultés rencontrées par les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, le tout dans un contexte plus global, lui aussi marqué par l'instabilité au niveau européen. L'élection de Donald Trump et ses annonces pour le moins fluctuantes à l'encontre des relations commerciales et des tarifs douaniers avec l'Union européenne, jusqu'à la récente tension instaurée vis-à-vis de l'Ukraine, tout cela nécessite de s'adapter et de façon cohérente, bref, de resserrer les rangs. D'autant plus que sur le long terme, l'Europe doit aussi s'organiser pour renouer avec sa compétitivité. C'est le message envoyé par Mario Draghi en septembre dernier, repris par Ursula von der Leyen qui le 29 janvier dernier a présenté une boussole made in Commission européenne pour tenter de mettre au clair une stratégie qui se veut durable pour les États membres et leur tissu économique. Or, dans un tel climat, l'avantage revient de fait à celles et ceux qui sauront s'y retrouver, qui ont en tête leurs intérêts propres et qui sont en mesure de les faire valoir. C'est précisément le rôle des groupes d'intérêts ou lobbies qui fournissent une certaine expertise à des fonctionnaires qui élaborent les normes et les lois sur la base de ces compétences supposées représentatives des mondes économiques et industriels. À cheval donc entre le terrain des entreprises et celui de l'administration, le capital de connaissances et de compétences développé par les lobbies semble particulièrement utile pour faire front rapidement et efficacement. Mais élaborer une stratégie européenne de long terme peut-elle passer par le compromis et la négociation permanente? La dépendance à une expertise technique fournie par des intérêts privés est-elle vraiment synonyme d'efficacité ou au contraire, aveu d'échec démocratique de la part des institutions européennes? C'est à travers un mot désormais ancré dans le langage courant, mais dont l'acception se renouvelle à l'aune des guerres commerciales et de l'instabilité politique, que nous allons répondre à toutes ces questions, lobby ou le pouvoir du capital bureaucratique. Une émission programmée et préparée par Anouk Milliot et Joséphine Reinhardt, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde aujourd'hui par Grégory Wallon. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Sylvain Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes socio-historien, directeur d'études à l'EHESS. On vous doit un ouvrage paru il y a quelques années, intitulé « Les courtiers du capitalisme, milieu d'affaires et bureaucrates à Bruxelles », paru aux éditions Agone. Également avec nous à distance depuis les studios d'ici à Saint-Étienne, Cécile Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques, vous enseignez à Sciences Po Lyon, vous êtes également membre du laboratoire Triangle et puis vous allez faire paraître dans quelques semaines, dans un mois, aux éditions Palgrave, un ouvrage qui porte justement sur la sociologie de ces lobbies européens, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Willy Beauvallet et sur cette thématique qui va donc nous intéresser tout au long de cette émission. Alors Sylvain, Laurent, on l'a dit, la période est particulièrement houleuse entre guerre commerciale et puis guerre armée au premier sens du terme. Dans un article du média Contexte qui suit de très près l'activité d'influence au niveau législatif et économique, un représentant d'intérêt dans un cabinet franco-bruxellois estime que désormais tout se joue au niveau européen, notamment parce qu'en France c'est compliqué. Il le dit, désormais on a un commissaire en propre, il y a la future loi européenne sur l'espace, c'est clairement là qu'il faut être. On va d'ailleurs recruter un cabinet à plein temps là-bas. Un autre directeur adjoint des affaires publiques témoigne, on embauche un senior à Bruxelles pour suivre le cadre financier pluriannuel. Et du reste, entre février 2024 et février 2025, les dépenses annuelles de lobbying ont augmenté de 13% à Bruxelles. Pourquoi, finalement, un tel contexte est-il propice, finalement, à ce resserrement des intérêts vers Bruxelles? Pourquoi est-ce que Bruxelles devient plus que jamais le théâtre, finalement, de la représentation de ses intérêts?
Alors, tout d'abord, remettre un peu de profondeur historique, c'est pas depuis un an que les entreprises, bien sûr, ont découvert le pouvoir de réglementation de la Commission européenne sur leur marché. C'est même relativement consubstantiel à la fabrication et à la construction des institutions européennes, car dès les débuts de la Commission européenne, la Commission européenne obtient notamment le pouvoir par délégation de négocier au nom des six pays membres les accords du GATT, par exemple, les accords commerciaux. Donc, dès le début, il y a cette idée que cette nouvelle entité supranationale a au moins ce pouvoir de négociation internationale. Et donc, il est à peu près, il semble normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où de nouveau ces équilibres internationaux en termes d'échanges vont peser et que donc on se retrouve avec de nouveau des entreprises qui s'intéressent à ce qui se joue à Bruxelles. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'on observe là aussi, c'est que c'est pas juste une accélération sur la dernière année. Là, on a, avec un collègue, Pierre Alérac, on a réactualisé notre base de données sur les stratégies des firmes globales en matière de lobbying. Et ce qu'on constate, c'est que si on compare par rapport à 2014, en 2024, aujourd'hui, on a, si on ne regarde que les plus grandes firmes mondiales, les 750 plus grosses firmes mondiales, on en a une très large partie qui sont aujourd'hui non seulement enregistrées au registre transparence de la Commission européenne, mais en plus dépensent un certain nombre, enfin des sommes conséquentes. Et ça, c'est sur 10 ans que ça s'est joué. Aujourd'hui, on a, y compris, enfin en 2014, pour vous donner une idée, on avait 29% des firmes multinationales américaines. Si on considère le top 800, hein, des 800 plus grosses, on avait 29% qui étaient inscrites au registre transparence. Aujourd'hui, elles sont 45% de ces firmes américaines à être inscrites. Et de la même façon, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que 84% des plus importantes firmes multinationales sous pavillon européen sont enregistrées également au registre transparence. Donc si on part de la liste des 800 plus grosses, et si on regarde si elles se projettent ou pas à Bruxelles, on constate une progression, mais là où ça devient encore plus contre-intuitif, là c'est le papier qu'on va sortir avec mon collègue Pierre Alérac, c'est y compris le cas pour les firmes britanniques, c'est-à-dire malgré le Brexit, malgré le Brexit, on a aujourd'hui 69% des firmes multinationales britanniques qui sont enregistrées à Bruxelles, elles étaient que 53% à l'époque où le Royaume-Uni était encore membre de l'Union européenne. Donc là, il y a une forme de, effectivement, de centralité confirmée de Bruxelles. Après, on va pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on met derrière. Mais on a effectivement, sur 10 ans, une forme de rôle central qui s'est confirmé pour Bruxelles en termes de régulation des marchés. Et y compris pour des firmes qui ne sont pas sous pavillon européen.
Et vous l'avez dit, Sylvain Laurent, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une très lente, d'une très longue aussi construction historique. On va le voir que ce rôle-là, ce rôle central joué par la Commission européenne, entre autres, a été voulu. Ce n'est pas simplement, encore une fois, une pure coïncidence. Cécile Robert, si on en revient au contexte actuel qui est à la fois celui d'une très grande instabilité politique en France et puis dans d'autres pays européens aussi, et celui d'une guerre commerciale déclarée par Donald Trump. C'est un peu la question qu'on va se poser tout au long de cette émission, mais est-ce qu'on peut dire que ces circonstances-là actuelles mettent finalement en lumière une des raisons pour lesquelles il existe tout simplement des groupes d'intérêt, à savoir des individus qui maîtrisent des rouages législatifs et bureaucratiques et qui sont donc capables d'influencer la prise de décision, et notamment en cas, on va le dire ainsi, de panique généralisée?
Oui, alors effectivement, on pourrait avoir le sentiment à la lumière de la configuration actuelle avec la guerre commerciale engagée par la nouvelle administration américaine, que finalement plus il y a d'incertitudes et plus il y a de lobbying, ce qui est pas complètement faux. Alors en l'occurrence, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un espèce de façon de raconter en fait, notamment initié par Trump, de guerre commerciale protectionniste, voire patriotique, et qu'on serait donc face à des mouvements conduisant les acteurs économiques et politiques à faire front uni de part et d'autre de l'Atlantique, finalement, avec les entreprises américaines défendues par Trump et puis les autres défendues par la Commission européenne en l'occurrence. En fait, c'est plus compliqué, mais ça suscite beaucoup de lobbying, en effet. D'une part, l'administration Trump, elle fait pas corps avec toutes les entreprises américaines, loin de là, je vais y revenir. Elle fait corps surtout avec les entreprises américaines les plus exportatrices, précisément, les géants de la tech. Et ces grandes entreprises de services américaines, ça fait très longtemps qu'elles combattent les réglementations européennes, notamment toutes celles qui ont lieu autour du digital, du numérique. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, tout ce qui concerne la réglementation du marché numérique, les données, l'intelligence artificielle, en disant que c'est des barrières non tarifaires, en disant que même elles ont des intentions politiques et idéologiques, on les accuse de vouloir faire de la politique, les Européens, contre les Américains. contre les conservateurs américains, pardon. Et donc, du coup, il y a un usage déjà du lobbying très important par le gouvernement américain, mais autour de la défense plutôt de ces entreprises-là, qui a été très bien documentée ces derniers temps, avec le recours notamment à des cabinets de lobbying. Et puis d'autre part, on a une administration américaine qui utilise les sanctions commerciales et leurs menaces comme une façon de faire plier les uns et les autres. On voit bien qu'il y a constamment une espèce de jeu de rapport de force. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'on voit pour l'instant, à l'exception d'un gros lobby qui est quand même bien connu sur la place de Bruxelles, qui s'appelle AmChamEU, qui est en fait une réunion des entreprises américaines et des chambres de commerce américaines, et qui est de très longue date, depuis les années 60, un lobby pro-transatlantique, à part cette organisation qui a dit très clairement qu'elle trouvait très dangereuse la stratégie de Trump. Globalement, ce qu'on observe, et là ça a été notamment documenté récemment par un article du Monde, c'est à la fois une sidération des entreprises européennes et des replis individuels. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont avoir tendance à chercher à lobbyer toutes seules pour obtenir des passe-droits. Alors, on a parlé de Bernard Arnault à l'inauguration de Donald Trump, mais plus généralement, ça a été aussi dit notamment pour les entreprises pharmaceutiques qui, au lieu d'aller ensemble derrière la Commission européenne demander des choses, vont plutôt aller essayer de lobbyer chacune de leur côté. Et puis enfin, on a l'administration européenne qui manifestement recourt aussi à des cabinets de conseil, là plutôt dans une version cherchons des gens qui peuvent parler à l'administration Trump. Donc elle est allée recruter notamment un cabinet de lobbying qui est apparemment connu pour avoir des liens avec l'administration Trump, pour pouvoir faciliter la négociation. Et il semble qu'elle tente aussi, cette administration européenne, d'essayer de faire un peu marche arrière sur un certain nombre de sanctions à l'égard des GAFAM, pour essayer finalement d'obtenir des concessions. Donc qui est plutôt dans une position de négociation via notamment ces cabinets. Donc effectivement, c'est une période où on a beaucoup de recours au lobbying, mais pas forcément à des stratégies unifiées pour l'instant.
Donc effectivement, on apprenait début février que certains diplomates de l'Union européenne avaient effectivement engagé ce fameux cabinet de lobbying qui se veut proche des républicains et de la première administration Trump. C'est le DCI Group. Donc effectivement, ça en dit long sur les stratégies de chacun pour tenter de s'adapter un peu dans l'urgence aussi. Il y a ce contexte très important des relations commerciales qui se tendent chaque jour un peu plus au fur et à mesure et au gré des annonces qui émanent de Donald Trump. Il y a une autre grande bataille qui a animé récemment la Commission européenne et qui illustre le rôle donné à ces lobbies, et ça va nous permettre aussi de rentrer peut-être plus en détail sur les stratégies des différents lobbies que vous avez commencé à évoquer, Cécile Robert. Mais c'est le secteur de l'automobile. Le lendemain de la présentation de la boussole de compétitivité, s'est tenu un dialogue stratégique qui était piloté par Ursula von der Leyen et qui réunissait justement les patrons de l'industrie automobile. Ces derniers, en difficulté, plaidaient pour une plus grande flexibilité, on va dire, vis-à-vis des exigences européennes sur la fin de mise en vente des véhicules à moteur thermique en 2035, et l'Association des constructeurs européens d'automobiles, qui est clairement un lobby et dont le patron est aussi celui de Mercedes, a publié nombre de communiqués dans ce sens. Et puis il y a deux jours, le lundi 3 mars, ce dialogue a pris fin et Ursula von der Leyen donnait les grandes lignes des conclusions qui ont été tirées.
Il existe une demande claire pour plus de flexibilité sur les objectifs de réduction des émissions de CO2. Vous le savez, le principe clé ici est l'équilibre. D'une part, nous avons besoin de prévisibilité et d'équité pour les précurseurs, ceux qui ont bien fait leur devoir. Cela signifie que nous devons nous en tenir aux objectifs convenus. D'autre part, nous devons écouter les voix et les parties prenantes qui demandent plus de pragmatisme en ces temps difficiles et la neutralité technologique, en particulier en ce qui concerne les objectifs de 2025 et les sanctions associées en cas de non-respect.
Sylvain Laurent, le plan industriel pour l'automobile est présenté à la Commission européenne aujourd'hui. En fait, cette aventure de ce fameux dialogue stratégique qui s'est déroulé sur plusieurs semaines nous raconte peut-être aussi finalement l'objectif des lobbies, Sylvain Laurent. Il ne s'agit pas seulement de diminuer le pouvoir des politiques, alors dans un sens, oui, notamment dans celui de la simplification et puis de rallonger ou non les délais d'adaptation. Mais finalement, tout ce que ça nous montre, c'est aussi que ça renforce énormément le rôle de la Commission européenne en tant que telle. C'est aussi à cela que servent les lobbies, c'est qu'ils ont compris que c'était institution-là qui comptait et que c'est là que se jouaient les rapports de force.
Oui, mais historiquement, la Commission a aussi cherché à les faire venir pour contourner en partie le poids des États membres, en fait, dans la régulation de l'économie. Parce que pour construire une administration supranationale, il faut en partie être capable de coaliser, construire un entourage d'acteurs économiques qui vont vous considérez comme un interlocuteur tout aussi légitime que le ministère de l'Intérieur italien, français, italien, français, etc. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est qu'on voit bien, on retrouve bien les deux objectifs un peu historiques de la Commission en ce domaine, qui a été longtemps incarné par une forme de rivalité entre la Direction Générale Marché Intérieur et la Direction Générale Concurrence. C'est que d'un côté, en termes de concurrence, la Commission européenne veut faire respecter une forme de principe de libéralisme économique, de concurrence, laisser le marché quelque part saisir les meilleurs standards, ce que veulent les consommateurs, et puis finalement c'est ça qui s'imposera de par la loi du marché. Et de l'autre côté, la DG Marché Intérieur, qui était toujours une idée de dire aussi il nous faut construire quelque chose comme de l'ordre d'une industrie européenne qui soit capable de faire des champions européens face à la compétition internationalisée, etc. Et là, en fait, on voit bien dans l'extrait qu'il y a une forme de contradiction entre ces deux pieds. Dès lors qu'on commence à avoir des tournants technologiques comme les voitures bas carbone, etc., si on fait des investissements, est-ce que c'est pour construire des champions internationaux ? Est-ce que finalement, on ne va pas pénaliser dans la compétition internationale si on met trop de normes, etc. Donc là, on voit qu'il y a une forme de contradiction du côté du régulateur, mais il y en a une aussi du côté des lobbies. Là, depuis le début de l'émission, on les présente un peu comme étant unifiés, mais qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, par exemple, comme un groupement européen de constructeurs automobiles, quand on commence à ouvrir le membership, comme on dit en anglais, les adhésions de ces confédérations européennes patronales, aujourd'hui, on retrouve énormément de groupes qui peuvent être considérés comme des groupes étrangers, en vérité. Donc, ils sont membres, parce qu'effectivement, ils produisent de l'emploi sur le continent, ils ont, selon les règles de ces confédérations européennes, des possibilités d'être porteurs de position, mais il y a tout un tas de groupements européens, ou même d'entreprises qu'on considère comme européennes, qui ont dans leur comportement, dans leur stratégie déjà des façons d'agir qui sont des façons d'agir de firmes globales. Je veux dire, aujourd'hui, LVMH dépense plus d'argent l'an passé à Washington qu'à Bruxelles. Et quand on projette un certain nombre de groupes sur nos statistiques, où on croise tout un tas de données, on fait des analyses de correspondance, etc., on s'aperçoit très vite qu'il y a certains groupes qui étaient originalement ces champions européens que voulait la Commission européenne. Aujourd'hui, ce sont des groupes globaux. Ils jouent à Bruxelles, mais ils jouent aussi à Washington. Ils ont aussi un pied en Chine. Et leur but, c'est plutôt d'avoir un business model relativement unifié où ils peuvent jouer avec le même business model sur ces trois arènes-là. Et donc, là aussi, ça a changé quelque part de niveau. C'est-à-dire, cette idée d'une Commission européenne qui fabrique des champions européens, elle a aujourd'hui fabriqué effectivement des groupes internationaux. Bayer a racheté Monsanto. Mais aujourd'hui, Bayer Monsanto, est-ce que c'est une firme européenne ou est-ce que c'est une firme globale qui joue sur plusieurs continents ? Et là, il y a quelque chose qui renvoie à votre introduction de tout à l'heure. C'est est-ce que c'est ça qui va sauver ou fédérer des intérêts européens ou recréer un intérêt public européen? Ma réponse, en tout cas, du point de vue de ces statistiques-là, est plutôt de dire, bien malin serait celui qui pourrait nous dire c'est quoi un intérêt économique européen d'un secteur aujourd'hui sur certains secteurs.
Et notamment lié à cette place très importante des multinationales que vous venez d'évoquer. Sylvain Laurent, j'avais une autre question et qui est aussi en lien avec le secteur de l'automobile parce qu'il nous offre cet exemple-là aussi. On parlait de l'Association des constructeurs européens d'automobiles qui regroupe de très très grandes marques, on l'a dit, son patron est celui de Mercedes. Mais sauf que dans ce dialogue stratégique-là, il y a eu des moments de friction et notamment avec un autre secteur qui est très concerné par ce bouleversement des normes, c'est celui du secteur de l'électromobilité. Eux étaient plutôt prêts à accepter les conditions de la Commission européenne, pas du tout le secteur des constructeurs. Qu'est-ce qui se passe quand finalement deux secteurs industriels sont confrontés à la même, on va dire, au même bouleversement de normes, mais ne sont pas d'accord entre eux ? Là encore, ça remet clairement en question l'idée d'un front uni aussi des lobbies industriels.
Oui, et même souvent à l'intérieur d'un secteur économique concerné, selon qu'un constructeur ait mis plus ou moins ses œufs dans le même panier et beaucoup investi dans l'électrique ou pas, on peut retrouver de plus en plus de ce qu'on appelle des coalitions ad hoc, c'est-à-dire on sait que 80% de ces compagnies multinationales sont membres d'une confédération européenne, ce qu'on appelle une business association. Et ça, c'est relativement stable, voire ça se renforce de façon très contre-intuitive dans le temps. Il y a toujours il y a des stratégies solo, comme l'a évoqué Cécile Robert tout à l'heure, mais il reste quand même cette espèce de forme d'expression corporatiste. Mais en plus de ça, on va avoir des stratégies solo et on va avoir en plus la possibilité de faire des coalitions ad hoc sur des dossiers où on va se retrouver avec 4-5 entreprises, parfois avec des formes où il n'y a même pas de statut déposé au tribunal de commerce belge. On va juste avoir des formes d'une carte de visite ou un site internet et on va intervenir sous la forme d'une coalition auprès des régulateurs ou répondre ensemble à une consultation. Mais on peut avoir comme ça des stratégies qui ne vont pas forcément de pair avec une rupture avec le secteur dans son ensemble. On peut toujours rester membre de la confédération. Donc là, on a encore une fois, je pense que ça a en partie toujours existé, mais aujourd'hui, c'est particulièrement visible dans des secteurs où il y a des tournants technologiques qui peuvent très rapidement créer des différences concurrentielles internes au secteur très, très, très fortes.
Cela dit, Cécile Robert, on voit que c'est un milieu très hétérogène, parfois très éphémère aussi en fonction des circonstances. Cela dit, on pourrait se dire, et c'est peut-être l'autre point d'actualité qui est assez saillant aujourd'hui, que tout ce qui a été mis en place, et notamment via la boussole de compétitivité en termes de simplification, de réduction aussi de l'intransigibilité, on va dire, des normes, tout cela, ça sert, on pourrait faire un gros paquet, se dire tout ça, ça sert les intérêts de l'industrie. Dans quelle mesure, justement, cette boussole de la compétitivité-là peut être vue comme une forme de victoire ou en tout cas d'affirmation du poids des lobbies et notamment du secteur industriel? Est-ce qu'ils ont eu voix au chapitre, à votre avis, dans la construction de cette boussole-là?
Alors, dans la construction de la boussole, bien certainement, mais plus généralement, ils ont eu tout à fait voix au chapitre. Alors, il y a deux réponses qu'on peut faire. Peut-être juste pour revenir sur le point que vous avez évoqué précédemment, il me semble qu'en effet, un élément très important et difficile à percevoir de l'extérieur, c'est l'augmentation très forte de la représentation des très grandes entreprises, que mon collègue Sylvain Laurent a souligné tout à l'heure en termes d'augmentation des budgets en lobbying. Mais on sait aussi que les fédérations industrielles et commerciales autour des années, entre les années 2000 et 2010, ont largement changé leurs règles pour permettre une adhésion directe de ces très grandes entreprises. Je vais revenir du coup à la question que vous posiez tout à l'heure. Et donc elles leur ont permis de rentrer avec des droits d'accès, en particulier les américaines, un peu plus importants parce qu'elles avaient des chiffres d'affaires plus importants. Et ça veut dire aussi qu'elles ont probablement, en tout cas, une voix importante. Lorsque l'industrie européenne, entre guillemets, via ces fédérations européennes sectorielles, parle, en fait, c'est pas toutes les entreprises du secteur qui parlent de la même façon et avec le même porte-voix, on va dire. Et donc, on a à la fois des fédérations européennes qui vont prendre des positions qui sont globalement convergentes avec celles des grosses multinationales, finalement. Et puis, par ailleurs, ces multinationales, elles ont multiples accès. Elles ont leur bureau de représentation directe. Elles passent par nombre de cabinets de lobbying qui peuvent parler en leur nom et par des coalitions, effectivement, ad hoc. Et dans le contexte où chacun va essayer de négocier un peu des choses, sans doute que ça va encore accentuer cet effet-là. Pour revenir à la part que prennent notamment les très grandes entreprises, mais plus généralement les intérêts industriels et commerciaux, évidemment, dans la boussole stratégique, et plus généralement, ce qu'on constate là sur les 25 dernières années, c'est qu'en fait, toute la réglementation du lobbying, la mise en place de mesures de transparence, et plus généralement, tout ce qu'on a appelé les réformes du processus de décision européen, qui sont souvent présentées comme étant des réformes visant à écouter les parties prenantes. Je renvoie au son que vous avez passé tout à l'heure avec Ursula von der Leyen, qui dit, voilà, il faut parler avec les stakeholders, etc. Toutes ces réformes-là, depuis 25 ans, en fait, elles ont pour effet de créer plus d'accès au processus décisionnel et plus d'informations données à des acteurs hors institutions sur ce qui est en train de se passer dans les institutions. Donc, globalement, pour celles qui peuvent éventuellement, enfin qui ont les moyens d'en profiter, c'est plus de possibilités de participer. Et ça, de multiples manières, on va sans doute y revenir, dans la consolidation, dans la fabrication de l'expertise que la Commission utilise pour fabriquer ces réglementations, dans la discussion avec elle via tous les dispositifs d'écoute des parties prenantes, évidemment aussi au Parlement, auprès des États membres, etc. Donc oui, bien évidemment, il y a eu une part importante. Et puis la dernière chose qu'il faut pas oublier, c'est quand même que les équilibres politique depuis 25 ans à l'échelle européenne, ils sont très favorables aux entreprises parce que c'est globalement des majorités de droite qui gouvernent. et que elles ont à cœur d'écouter, on va dire d'une façon très attentive, hein, les très grandes entreprises, les champions nationaux et pas que.
On a beaucoup parlé de questions de budget, peut-être pour donner un ordre d'idée très concrètement, et je parle là notamment des poids lourds, on va dire, et notamment américains, puisque ce sont eux aussi qui pèsent énormément, on l'a dit en début d'émission, le budget typiquement de Meta ou de Microsoft, c'est respectivement 9 et 7 millions d'euros en termes de lobbying européen. Google, c'est 6 millions. Apple, c'est entre 6,5 et 7 millions d'euros. Donc voilà, ce sont des sommes importantes. Après, si on passe à Pfizer ou General Electric, par exemple, on tombe à 1,5 ou 1,25 millions d'euros. Donc on voit que ce sont des sommes importantes qui sont mises sur la table. Sylvain Laurent, qu'est-ce que ça nous dit aussi, cette idée que finalement, ce sont les plus grosses entreprises qui ont le plus de moyens, qui ont accès finalement à la modélisation de l'agenda, à la mise sur la table de certaines thématiques, et je pense notamment à celle de la simplification, entre autres, mais on pourrait parler de choses beaucoup plus précises concernant les entreprises technologiques. Finalement, est-ce que ce poids des lobbies-là, c'est aussi une façon de constituer un agenda politique et de réguler la vie politique par l'argent aussi, puisque qui a plus de moyens et plus d'accès, forcément, pèse davantage.
Oui, et par ailleurs, il y a quelque chose qui est tout à fait perçu par les agents de la Commission les plus... fervent partisan du marché dans sa définition néolibérale, c'est-à-dire que idéalement, ils voudraient que ce soit le marché qui prenne en charge. Je me souviens notamment d'un entretien que j'avais fait avec des fonctionnaires de la DG entreprise où eux, ils voudraient que ce soit effectivement le marché qui fasse la promotion des meilleurs standards et que une PME italienne innovante dans tel ou tel secteur, elle se retrouve à pouvoir imposer son produit. Et or, quand on consulte des entreprises, on ajoute pour les entrepreneurs un coût qui est celui de la représentation politique. Ils ont déjà, il faudrait qu'ils détournent une partie de leur bénéfice, de leur profit pour financer une forme de représentation politique à Bruxelles pour défendre leur business model. Or, là, il y a un problème de coût d'échelle qui n'est pas pensé, entre guillemets, par la théorie libérale du point de vue économique, c'est que les petites entreprises se représentent beaucoup moins bien auprès des régulateurs et que les très gros ont un pouvoir normatif sur le marché, du coup, parce qu'ils peuvent effectivement proposer leur vision. Mais la question qui se pose, c'est du coup, pourquoi les gens de la Commission le font ? Alors, pourquoi ils achètent ces législations clés en main vendues par les plus gros ? Et là, la réponse est que 4 ou 5 grosses entreprises coalisées dans une business association, elles représentent 80%, 90% d'un marché. Et quand vous êtes du côté de la Commission, eux, vous cherchez des solutions qui, bon, d'une part, vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire vont pas être empêchées au Conseil des États membres parce qu'il y aura eu un contre-lobbying au niveau national. Et Cécile l'a bien rappelé, il y a des stratégies qui s'articulent à différentes échelles. Donc, un grand groupe allemand va mobiliser aussi son gouvernement à des moments, bon, éventuellement des députés. Et l'autre point, c'est quand vous êtes un bureaucrate et que vous voulez que votre législation aille au bout, ce que vous allez être aussi enclin à regarder, c'est si votre solution elle va affecter 80-90% des consommateurs. Et donc, si vous avez 5 groupes pharmaceutiques qui arrivent et qui disent bonjour, on est d'accord sur un emballage commun en matière de médicaments, vous savez que vous avez déjà couvert, grâce à cette solution de synthèse proposée clé en main, une large partie du marché. Donc là, il y a une affinité en fait, de position entre le régulateur qui cherche des solutions pour le marché dans son ensemble, et ces logiques de oligopole qui se rencontrent et qui renforcent le pouvoir d'influence avant même qu'on ait parlé d'éventuelles corruptions, d'argent, etc. C'est ces effets de taille aussi des grosses entreprises face à un régulateur qui cherche à normer pour un ensemble sur le continent qui pèsent énormément. Et après, vous avez évoqué donc effectivement l'argent dépensé par les entreprises de la tech, mais là aussi, il faut voir pourquoi on dépense. Et l'an passé, l'entreprise qui a dépensé le plus d'argent à Bruxelles en 2024, c'est pas Apple, c'est Qualcomm. Et Qualcomm, pourquoi ils dépensent tout cet argent-là ? C'est parce qu'ils sont dans un litige sur la question des conducteurs et de la téléphonie, et que donc il y a des entreprises qui cherchent encore une fois à avoir un business model qui est le même partout, d'avoir le même rapport à la propriété intellectuelle, aux données personnelles peuvent avoir aux États-Unis ou en Europe. Et donc ces points de friction-là créent du contentieux, créent de la nécessité d'être représenté, etc. Mais si vous avez à l'inverse des entreprises qui décident d'avoir des stratégies de ne même plus discuter avec leur régulateurs et d'imposer leur modèle. J'ai un modèle en tête, mais voilà, je ne vais pas forcément citer de marque. Mais là, forcément, ces dépenses-là, elles se posent beaucoup moins. Je veux dire, là, il y a un lien très fort entre la stratégie que vous avez vis-à-vis du régulateur et la façon dont vous dépensez ou pas de l'argent pour vous insérer dans le jeu, l'écologie institutionnelle. La thèse récente de Charles Thibault sur Google en France, là-dessus, est très éclairante. C'est que quand Google arrive en France au début, et dans une stratégie un peu rebelle, on est une entreprise qui fait d'abord de l'argent sur un modèle simple, etc. Et puis au fur et à mesure où l'entreprise veut s'installer, elle va plutôt prendre le point de vue d'accompagnant du régulateur. Amener le régulateur à comprendre, c'est va être quoi la numérisation des œuvres, d'abord avec la question des Google Books. Et puis petit à petit, aujourd'hui, pendant la crise sur le Covid, une partie de la géolocalisation se fait grâce à des données de Google. Et donc là, il y a carrément un accompagnement des politiques publiques qui se fait. Et Google, aujourd'hui, devient vital, y compris à la conduite de politiques publiques. Donc là, le rapport au régulateur, il faut aussi le penser sur quelle est la stratégie de la firme. Est-ce qu'elle est dans une stratégie de rupture par rapport au régulateur, ou bien est-ce qu'elle est carrément en train d'accompagner aussi le développement de politiques publiques? Et j'ai le sentiment que, par exemple, Microsoft, aujourd'hui, qui est une entreprise extrêmement représentée par plein de canaux à Bruxelles, elle est plutôt dans une stratégie de jouer l'opérateur sage par rapport à des rogues de la tech qui arrivent avec leur grand discours, etc., parce qu'ils sont plus anciens, parce qu'ils sont plus transversaux sur leur business, etc. Mais cette question-là aussi, elle est fondamentale. On peut aussi dépenser de l'argent pour être dans la proximité au régulateur en permanence. Et ça, c'est des formes de lobbying qui sont sans doute tout aussi structurantes que la seule question du démantèlement ou de la dérégulation. Plus votre business model est proche de ce que veut le régulateur, plus vous gagnez. Donc,
Et plus vous arrivez à réduire de fait les frictions et donc potentiellement les coûts aussi, d'où cette logique de coopération, une logique de coopération qui, on va le voir, est très fortement aussi inscrite dans cette histoire du lobbying. Cécile Robert, on a parlé de plein d'entités différentes, on a parlé de business association, de fédération d'entreprises, on a parlé d'entreprises en elles-mêmes qui arrivent directement en tant que lobbying à Bruxelles. En 2022, il y avait un peu plus de 12 425 entités qui étaient inscrites au fameux registre de la transparence. Alors là, Cécile Robert, il faut nous aider à faire un point dans toutes ces entités, dans ces 12 425 entités. Est-ce que tout relève du lobbying? Est-ce que tout est à mettre dans le même sac? On a parlé beaucoup de lobbying industriel, mais finalement, comment ce lobbying se structure au sein de ce fameux registre de la transparence?
Alors, il se structure via les catégories qui ont été proposées et modifiées progressivement par l'administration européenne, l'administration du registre de transparence qui est portée au départ par la Commission, puis avec le Parlement et aujourd'hui avec le Conseil. C'est évidemment une structuration en catégories qui a des enjeux tout à fait essentiels, dont un que vous avez pointé à l'instant. Au début, lorsqu'on a mis en place le registre de transparence, donc à partir de 2005, il en a été question, puis il a progressivement pris place. Un certain nombre d'organisations ont souhaité ne pas y appartenir en disant qu'elles allaient être assimilées finalement aux intérêts industriels et commerciaux. Et donc on a divers acteurs pour des raisons assez différentes. Bon, bien sûr on a les syndicats qui ont protesté qui ont souligné que c'était pas logique finalement de considérer que ils représentaient le même type d'intérêt ou qu'ils faisaient le même travail de représentation. On a sur un autre registre les collectivités territoriales aussi qui ont dit bah voilà, nous on fait effectivement la représentation d'intérêts, mais on représente des intérêts République. On a aussi, alors sur un autre registre, les avocats, et on a toujours cette question de voilà, dire voilà, en fait, on fait pas tout à fait du lobbying, on devrait pas être soumis aux mêmes mesures, etc. Donc aujourd'hui, ces catégories, en fait, elles font apparaître quand même quelque chose qui n'était pas présent au départ, c'est soit vous représentez des intérêts commerciaux, soit vous n'en représentez pas. Soit vous faites du lobbying, entre guillemets, pour vous-même ou pour vos membres, soit vous en faites pour des intérêts dits publics. Mais la catégorie publique, d'intérêt général, elle n'existe pas à l'échelle européenne. C'est un gros enjeu, on pourra y revenir. Et donc, on a ce truc de intérêts commerciaux, non commerciaux. Si on veut se faire une image, grosso modo, on a globalement aujourd'hui 13 200 organisations. On en a 28% seulement qui ne représentent pas d'intérêts commerciaux. Parmi lesquels, les ONG, les syndicats, des associations, des universités, des think tanks, tous les acteurs qui sont amenés à rencontrer, en fait, des gens de la Commission, du Parlement et qui doivent s'inscrire pour cela. Et puis du côté des intérêts commerciaux, on a ce qu'on a évoqué à l'instant, les très puissantes Trade and Business Association, les fédérations industrielles et commerciales. On a des grands groupes qui ont les moyens de se représenter et on a, pour le dire vite, aussi les cabinets de conseil et tous ces acteurs-là représentent quand même 70% on va dire des intérêts représentés des acteurs enregistrés, des organisations enregistrées sur le registre de transparence. Ensuite, on sait qu'il faut prendre avec la plus grande prudence les chiffres qui sont indiqués pour tout un tas de raisons. Mais néanmoins, c'est vrai que l'asymétrie des moyens, notamment financiers, mais aussi humains, est patente. Les 30 organisations les plus riches dans le registre déclarent des sommes entre 4 et 11 millions annuels de dépenses en lobbying. Tandis que 12 000 sur les 13 200 disent disposer de moins de 400 000 euros par an. Donc on est vraiment sur des asymétries de moyens très importantes et qui sont globalement articulées autour de l'opposition, intérêts commerciaux et non commerciaux. On a des grosses ONG qui ont des budgets de 1 million et quelques, voire un peu plus, et qui existent sur la place de Bruxelles, mais globalement, on a quand même le budget de la moitié des intérêts commerciaux qui est supérieur à 50 000 euros annuels, et 10% d'entre eux qui dépassent les 200 000, là où 50% des ONG et des associations ne déclarent pas de dépenses en lobbying ou très peu. Et puis, ces inégalités de ressources, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. En fait, elles se traduisent aussi par un nombre d'équivalents temps plein. On a des organisations, 50% des organisations qui déclarent moins de un équivalent temps plein de lobbyistes, tandis que pour les grosses organisations, on est entre 45 et 90 lobbyistes. Et puis après, tout ça se retraduit par des accès différenciés aux institutions, alors qu'on ne peut pas complètement documenter, parce que tous les accès ne sont pas documentés, mais ceux qui sont rendus publics par le registre de transparence, les rendez-vous avec le personnel de la commission, aujourd'hui avec les députés, leurs assistants, montrent que globalement, et puis tout ce qui est participation à des consultations, vous avez parlé de la boussole stratégique, tout ce qui est public, consultation publique, etc., tout ça est majoritairement en faveur d'accès beaucoup plus important, au secteur industriel et commercial, dans des proportions vraiment importantes. Si on regarde juste que les groupes d'experts, par exemple de la commission, on a grosso modo 14% pour les associations et les ONG, 4% pour les syndicats. Et puis, autour de 55% pour les fédérations industrielles et les très grandes entreprises. Donc, on a des écarts très importants entre ces acteurs-là.
Donc, on voit d'assez fortes inégalités. Cécile Robert, vous avez dit qu'il fallait se méfier des données auxquelles on avait accès. Très concrètement, ce registre de la transparence, dans quelle mesure est-il obligatoire finalement? Qu'est-ce qui est obligatoire? Quelles régulations il y a en termes, ne serait-ce que de connaissance finalement, de ce paysage des groupes d'intérêt?
Alors, il est pas obligatoire au sens d'une obligation juridique. C'était un point de débat de près de 15 ans, 20 ans avec les ONG notamment. Il est rendu un peu incontournable par la nécessité, pour pouvoir rencontrer toute une série d'acteurs du processus décisionnel européen, d'abord les commissaires et puis aujourd'hui les personnels de la commission, au middle management, top management et les députés aujourd'hui, il est nécessaire qu'ils soient inscrits pour que ces personnes puissent se conformer à leur devoir de déclarer leur rendez-vous. Donc, on a une demi-obligation, on va dire, et on a un enrichissement progressif des budgets. Mais la question de comment on définit un budget en lobbying, la question de, par exemple, qui a souvent été posée, de est-ce qu'il faut prendre en compte une partie du salaire du PDG dans les coûts en lobbying, sachant que les PDG font du lobbying, bien sûr. Comment on construit ce chiffre? Le fait que ce chiffre et ces obligations aient été continuellement redéfini année après année. Aujourd'hui, par exemple, les fourchettes dans lesquelles les cabinets de lobbying déclarent les coûts en lobbying qu'ils assignent ou qu'ils affectent à leurs clients sont tellement énormes qu'on n'arrive plus du tout à déterminer les budgets en lobbying qui sont dépensés par des entreprises, par exemple, comme Google, dont il a été montré qu'en fait, elles pouvaient recourir à une très grosse partie des grands cabinets de lobbying à Bruxelles pour empêcher qu'ils aient d'autres clients. Et donc, on n'arrive pas du tout à avoir une vue précise de ces budgets. Ceci en raison à la fois donc d'une non-obligation et puis d'un manque de moyens humains pour vérifier la qualité des données qui sont enregistrées par les organisations sur ce registre. On a un secrétariat, mais qui a très peu de moyens humains, pas suffisamment en tout cas, pour arriver à vérifier la qualité de ces données.
Donc on le voit, Cécile Robert, finalement, ce phénomène de lobbying n'est ni homogène, ni facilement appréhendable, on va dire, et qu'il passe un peu entre certains trous de la raquette en termes de quantification et puis de régulation. Sylvain Laurent, ce qu'on entendait aussi à travers la première réponse de Cécile Robert, c'est qu'il y a une forme de connotation assez négative, ne serait-ce que du terme lobby. Et je rappelle que voilà, on est dans une émission qui est consacrée à un mot, celui de lobby. Est-ce que cette connotation négative-là, qui est notamment refusée par qui fait que les syndicats refusent d'avoir cette étiquette qui leur est accolée, est-ce que cette connotation, elle a toujours existé ?
Alors, il faut bien peut-être distinguer là la question des traditions nationales et comment on présente les choses au niveau français ou à Bruxelles. Le terme lobby, il vient de la fin du XVIIe siècle. On a coutume de dire que ça renvoie à la zone du Parlement anglais où les députés pouvaient parler, les membres du Parlement pouvaient parler entre deux séances, mais où aussi, du coup, des visiteurs pouvaient venir extérieurs et dialoguer avec eux. Mais cette idée d'une influence sur le parlementaire ou la rencontre entre le parlementaire et des intérêts particuliers, elle est plus ou moins stigmatisée selon les traditions politiques nationales. Moi, personnellement, j'ai jamais rencontré de lobbyiste qui m'a dit non, je suis pas lobbyiste à Bruxelles, parce que à Bruxelles, pour le coup, le fait que tout le monde pourrait être représenté est un peu le discours habituel. Et comme à raison de le souligner Cécile, en rappelant l'asymétrie des moyens, la phrase courante, c'est de dire, mais en fait, tout le monde fait du lobbying, nous, on fait du lobbying à la chimie, dans le secteur de la chimie, mais Greenpeace aussi, par exemple, on fait du lobbying ou d'autres. Et donc là, il y a une forme de mise en équivalence, mais qui quelque part, est trompeuse, parce qu'on pourrait avoir le sentiment que ces gens font la même chose. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas utiliser le mot lobby pour parler de ce qu'on appelle du plaidoyer ou de l'advocacy, en anglais, pour parler des ONG, parce que l'asymétrie de moyens va avoir un effet très direct en termes d'accès, mais aussi en termes de matériaux qu'on va transmettre aux décideurs. Donc, de toute façon, les entreprises ont c'est un avantage lié à la propriété des moyens de production. Elles ont un avantage technique qui fait qu'elles ont accès aux brevets, aux données sur les quantités produites, sur tout un tas d'éléments matériels de la production, qui fait que de toute façon, elles ont une base d'informations au départ qui peut être perçue comme étant plus fiable par le régulateur. Surtout si le régulateur ne se donne pas les moyens de produire ses propres données de façon indépendante. Mais au-delà de ça, il y a la capacité à aller enrôler des savants, des chercheurs, de l'expertise. Et cet argent-là, il se transforme en une capacité à ne pas se limiter à un discours de surface et politique. Les gens qui travaillent dans des groupes d'intérêt économique arrivent voir des décideurs avec des études d'impact, des papiers de position qui ressemblent à des articles dans des journaux scientifiques, des évaluations de leurs produits, de leurs substances. Et c'est ça la monnaie d'échange avec les institutions de l'Union européenne, qui n'est pas qu'à Bruxelles, par ailleurs, parce qu'il y a tout un tas d'agences, il y en a plus d'une quarantaine. L'Agence chimique européenne, qui est basée à Helsinki, l'EFSA, pour la question sanitaire, etc. Et là, dans ces lieux-là, en fait, la parole parlée, c'est plutôt de la toxicologie, par exemple. Et donc là, c'est pas simplement que vous avez, comme Greenpeace, les moyens peut-être de mettre en scandale une ou deux substances, c'est que vous avez la possibilité de ramener avec vous tout l'état de l'art sur une substance et de prouver que votre substance peut continuer à être commercialisée sans danger, etc. Et là, la langue qui est parlée, c'est une langue qui n'est pas une langue de type parlementaire ou politique. Et beaucoup de choses à Bruxelles sont décidées, ou beaucoup de choses sont décidées au niveau européen dans ces agences sans qu'on repasse par la voie parlementaire. C'est la fameuse comitologie, c'est toute cette délégation aux agences de la décision finale sur les valeurs limites d'exposition, sur tout un tas d'éléments techniques qui sont les vrais points sur lesquels la mise sur le marché va se jouer. Et donc moi, je rencontre beaucoup de lobbyistes qui disent, en fait, mais moi, je ne vais pas aller me disputer au Parlement parce que finalement, la décision elle va être prise en agence. Donc
pourquoi plus efficace, c'est de contourner
d'attendre que ça passe. Et puis, moi aussi, je suis pour les principes énoncés. Je suis pour la santé, je suis pour, etc. Après, savoir si le taux final, ça va être 2,4 ou 2,00 sur mon produit en termes de valeur limite d'exposition, c'est ça qui va changer mes coûts de production. Donc là aussi, il y a cette différence. Les ONG, elles ont intérêt à scandaliser, publiciser, en appeler à l'opinion quand elles n'ont pas accès aux étages les plus hauts de la commission, alors qu'à l'inverse, les entreprises cherchent à mener une politique au calme, comme le, pour reprendre l'expression d'un chercheur qui s'appelle Pieper Kupeper, et qui lui dit, voilà, quand on mène ce genre de stratégie, autant le faire peut-être loin des ONG, donc dans des lieux de décision plus techniques.
Et puis vous l'avez dit, Sylvain Laurent, et c'est un point essentiel pour bien comprendre aussi comment s'est nouée cette relation, on l'a dit, soit de rupture, soit de coopération aussi avec les fonctionnaires européens et le secteur privé, c'est le fait de fournir ce matériel, vous l'avez dit, parfois très précis, parfois qui confine à l'article universitaire ou scientifique. Or ça, c'est vraiment la base de cette relation-là, et ce depuis les tout débuts aussi de la construction européenne. Et cela explique la raison pour laquelle finalement ces lobbies sont écoutés. On se posait la question en début d'émission. Et donc, pour bien comprendre pourquoi finalement il y a une oreille relativement attentive aux travaux produits et à l'expertise produite, il faut en revenir aux origines de l'Union européenne.
Dans 6 pays d'Europe, Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, les industries du charbon et de l'acier sont aujourd'hui liées par une solidarité de production et de travail. Dans 6 capitales, un grand dessein politique a pris corps, celui d'accomplir l'unité européenne par des voies pacifiques. La communauté européenne du charbon et de l'acier est la première réalisation concrète dans cette marche vers les États-Unis d'Europe.
Le 9 mai 1950, Robert Schuman propose la création de la CECA. En 1957, la communauté économique européenne se met en place. Très concrètement, quelle légitimité, quel rôle occupent les milieux d'affaires dans cette construction européenne, Sylvain Laurent? Est-ce qu'ils ont immédiatement perçu l'intérêt d'être présents à cette échelle communautaire?
Alors, il faut voir qu'en fait, il y a un transfert entre ce qu'était la haute autorité puisque va devenir la Commission européenne, qui, elle, va s'installer à Bruxelles, alors que la haute autorité était à Luxembourg. Et donc là, pour se présenter un peu l'ambiance de l'époque, on peut s'amuser à citer un extrait d'un entretien d'histoire orale qui a été mené par la Commission. Vous savez, la Commission, dès qu'un fonctionnaire qui a occupé des positions un peu hautes pendant longtemps va à la retraite, on fait des campagnes d'histoire orale pour savoir un petit peu comment il a vécu sa carrière. Et donc celui-là, il s'appelle Jean Dejean, mais lui, il raconte ce contraste-là. Il dit, nous avions intérêt à la CECA à avoir un appui des sidérurgistes. On gérait le marché du charbon et de l'acier. Une ambiance tout à fait différente. Quant à l'influence que les industriels pouvaient avoir sur nous, vous savez, à la CECA, on mangeait beaucoup, on buvait beaucoup, on était très reçus, on avait l'habitude. Vous auriez dû voir les réceptions organisées par certains dirigeants de la Ruhr. C'était somptueux, vous étiez reçus comme des rois. Les membres de la haute autorité et leurs chefs de cabinet étaient reçus comme des chefs d'État. Mais pas de cadeaux, hein, une petite bouteille de vin par-ci par-là. Mais ils avaient des caves de Bordeaux absolument incroyables. Mais ça n'empêchait pas que quand on était devant les dossiers, ça n'avait pas beaucoup d'influence. Nous avons lutté, nous avons gagné d'ailleurs contre la restitution d'un cartel, etc., etc. Mais alors, étant à Bruxelles, c'est un peu différent. Parce que ce n'est plus gérer le marché, c'est gérer des dossiers plus spécifiques, sur tout un tas de matières. À la CECA, j'étais vraiment un des seuls qui n'était pas un technicien du charbon de l'acier, mais les autres fonctionnaires étaient vraiment des spécialistes. À Bruxelles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai vécu ça quand je suis arrivé. Beaucoup de fonctionnaires venus des administrations nationales n'étaient pas compétents dans les sujets qu'ils devaient traiter. Alors, quand un fonctionnaire tombe sur un lobbyiste qui veut l'aider à monter un dossier, ben là, ça ne devient pas négligeable. Et j'ai vu fonctionner ça. J'étais très proche d'une boîte de consultants après ma retraite. J'ai vu comment ça peut fonctionner. On peut très bien influencer un fonctionnaire en lui expliquant bien comment développer son dossier en matière de tabac, d'alcool ou tout ce que vous voulez.
Donc en fait, on comprend que la CECA est une institution relativement petite dans laquelle il est relativement facile d'avoir une forme d'influence, et qu'au fur et à mesure que les institutions prennent de l'ampleur et de l'étoffe, ça s'ouvre aussi à d'autres profils.
Alors, c'est facile d'avoir de l'influence à la CECA parce que quelque part, il n'y a qu'un seul marché à réguler, mais en même temps, l'objectif est simple, c'est de ne pas avoir de cartel. Donc quelque part, le régulateur a une fiche de mission qui est assez établie. Là, ce qu'il raconte, c'est qu'à l'inverse, il a l'impression que les lobbyistes ont plus de pouvoir à Bruxelles parce que les fonctionnaires ont beaucoup de dossiers très différents avec des représentations très très par secteur, et finalement vous n'êtes pas forcément très spécialiste de votre secteur. Et donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre des débuts de la Commission, où la Commission va s'appuyer beaucoup sur ces confédérations européennes pour se nourrir en données premières, notamment pour pouvoir aller discuter avec les Américains sur le GATT. Vous voulez négocier le marché des voitures en Europe, mais combien on fabrique de voitures en Europe? Bon, ben c'est ces lobbyistes-là qui vont vous donner les données techniques. Donc surtout dans ces premiers moments-là, il y a vraiment une dépendance aux données. Mais on pourrait se demander aujourd'hui, mais pourquoi ça existerait toujours? Je veux dire, enfin, il y a une Commission européenne avec plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires, on pourrait tout à fait imaginer que ce pouvoir d'expertise interne soit renforcé. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une dépendance à une histoire, à une administration qui se voit surtout comme étant là pour aider les entreprises à changer d'échelle, à organiser un marché intérieur, etc., mais pas nécessairement avec toujours l'articulation d'une politique, on va dire, industrielle, articulant les différents niveaux nationaux, parce que les États membres continuent de considérer aussi que c'est de leur ressort. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue dans la particularité de l'assemblage, je pense, entre l'administration bruxelloise et les États membres.
Et ce qui est intéressant et ce qui marque finalement aussi ces années, c'est ce fameux renversement que vous avez évoqué, Sylvain Laurent, c'est que finalement il y a un besoin aussi de la part des fonctionnaires européens pour produire de nouvelles normes, notamment face au marché unique, pour avoir accès à de la donnée unifiée aussi, qui n'est plus uniquement à l'échelle nationale. Vous l'avez dit aussi, dans le cadre des négociations du GATT au tout début des années 60, ça a permis d'avoir ce patronat, ou en tout cas ces représentations d'intérêts industriels, ça a permis de donner une légitimité aussi dans les négociations face aux Américains. Finalement, on peut dire aussi que cette relation entre lobby et fonctionnaires européens, elle est aussi une relation de dépendance dans l'autre sens. C'est parce qu'on a besoin des lobbies que l'Union européenne parvient aussi à se construire. C'est une production d'expertise qui est fondatrice.
Alors ce que je dis, c'est que parce que l'administration européenne a besoin des lobbies face aux autres administrations, qu'elles soient américaines ou celles des États membres. Le « on », là, par contre, il est à moduler, parce que je ne pense pas, par contre, que l'intérêt agrégé des entreprises portées telles qu'elles sont portées à Bruxelles soit l'intérêt public. Je pense qu'il y a tout un tas de médiations, notamment ces entreprises, par exemple, ne parlent pas au nom de leurs... Enfin, elles parlent au nom de leurs salariés, mais elles ne parlent pas des intérêts de leurs salariés. Quelque chose qui n'a absolument, pour le coup, jamais marché à Bruxelles, c'est cette dimension dialogue social européen. C'est-à-dire, sur les 1200 business associations basées à Bruxelles, il y en a en face une quinzaine qui sont dialogue social européen. Et par exemple, si on prend l'exemple de la chimie, vous avez d'un côté le CEFIC, qui est donc la business association de la chimie, etc. Mais la partie, on va dire, employés, salariés, c'était l'ESSEG pendant très longtemps. Et là, c'est 4 salariés équivalents temps plein. Et ça ne signe quasiment aucun accord de branche. Donc en fait, le truc qu'il y a aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que les entreprises ont cherché à Bruxelles à pousser leurs intérêts du point de vue, on va dire, business association ou trade association, comme on dit en anglais. Mais la partie employer association, en vérité, elle n'a jamais été totalement développée.
Pourtant, Sylvain Laurent, je crois que Jacques Delors avait tenté de mettre en place tout de même une institution paritaire, à savoir le dialogue social européen. Exactement. Au milieu des années 80, ça n'a pas pris.
Ben, c'est les accords de Val-Duchesse, et puis ça donne lieu effectivement à la construction du dialogue social européen, mais je vous invite à aller voir vous-même le site du dialogue social européen, à la fois son état de rafraîchissement en termes de site internet, et puis le nombre d'accords de branches qui sont signés ces dernières années. Je ne sais pas pour dire que ça ne pèse pas, que ça ne vaut rien, mais par rapport à Better Regulation, ça c'est le travail de Julien Louis, notamment sur le secteur de la coiffure, qui montre bien comment la chimie avait en partie utiliser Better Regulation pour casser un accord de branche qui, pour une fois, avait été signé au niveau européen. Les travaux de Julien Louis montrent bien qu'il y a tout un tas d'autres façons pour les groupes d'intérêt, plein de façons et de leviers pour perturber le dialogue social européen. Et donc, Bruxelles, à ce niveau-là, a sans doute encore énormément de progrès à faire si on veut qu'un jour, il y ait une forme d'Europe sociale.
Donc, on le comprend, cette construction se fait progressivement en abandonnant certains pans, notamment celui du dialogue social. En 1993, dans l'émission Demain l'Europe, diffusée sur France 2, Keith Richardson, secrétaire général de l'European Roundtable, un lobby de l'industrie créé en 83, puis Jacques Delors reviennent justement sur la façon dont les liens se tissent entre administration européenne et lobby.
Au commencement, il y avait quelques chefs de grandes sociétés comme M. Gyllenhammer de Volvo, M. Agnelli de Fiat, M. Decker de Philips. Il y avait aussi des membres de la Commission européenne comme M. Davignon de la Belgique et M. Ortoli, qui était membre français, et qui ont tous travaillé ensemble pour établir un groupe d'expression pour l'industrie européenne.
Ils ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée, pour une raison simple, c'est qu'ils étaient l'infanterie de la guerre économique mondiale. Donc ils voyaient bien que si l'on continuait à avoir des marchés fractionnés, l'absence de coopération entre les entreprises européennes, nous étions voués au déclin. Ils ne pouvaient pas gagner la partie. Donc le fait d'avoir le plus grand marché du monde, le plus prospère, était une base stratégique pour une économie qu'ils considéraient déjà comme mondiale à l'époque. Donc ce que j'ai fait en 84, c'est de rechercher un consensus par défaut avec les gouvernements. Ils refusaient tout sauf cette idée d'un grand marché. et d'obtenir un consensus par enthousiasme des industriels.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture Lobby, c'est notre mot du jour aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Alors que nous dit Sylvain Laurent la création de cette European Roundtable en 83 et qui était évoquée à l'instant dans cette archive 10 ans plus tard en 93. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution justement des liens entre lobby et fonctionnaires européens à cette époque-là?
Alors la Commission européenne a toujours cherché à s'attacher des liens avec les milieux d'affaires à deux niveaux, à la fois des liens de type corporatiste avec ces confédérations dont on a beaucoup parlé, mais elle a aussi cherché à établir des liens directs avec les PDG des plus grandes entreprises, soit en se déplaçant dans les pays membres, soit en créant une forme de table ronde ou de club auquel elle s'associait. Avant la table ronde des industriels, donc on entend bien d'entendre parler, il y avait ce qu'on appelait d'ailleurs le groupe des présidents, sauf que le groupe des présidents il devient un peu trop vieillissant, parce que le problème c'est quand vous personnalisez ce genre de relation, les gens vieillissent, et donc en 83, pour relancer la machine, ça c'est les travaux d'Audrey Pajot qui nous montrent bien, on va recréer une table ronde des industriels européens, un peu sous le modèle de la table ronde Business Roundtable américaine, où là l'adhésion ce sont les PDG qui sont censés dire quelle est leur vision pour l'Europe, et la commission essaie de créer un lien notamment avec les PDG des nouveaux pays entrants, la Suède, etc., Volvo. Bon, on va chercher les têtes de pont des industries des différents pays et on met les PDG autour de la table en leur disant voilà l'avenir que nous en tant que commission on envisage en termes de nouvelles autoroutes européennes, de nouvelles logistiques, etc., c'est ça, donnez-nous votre retour. C'est aussi une façon d'intéresser les directeurs d'entreprise à ce qui se joue, mais aussi à essayer de faire de la prospective, de la planification sur plusieurs années de quels pourraient être les déploiements futurs de l'Union européenne.
Cécile Robert, ce qu'on voit aussi avec cette évolution des liens depuis les années 60 jusque dans les années 90, c'est que finalement cette relation-là, elle est banalisée, elle est normalisée. On voit bien l'intérêt de chacun à la fois pour se servir de nouvelles données ou de nouvelles connaissances tout simplement, ou bien pour avoir accès de fait à une forme de pouvoir. Et on l'a dit, parfois c'est très incarné à travers des individus très, très précis et qui composent ces deux groupes et qui sont clairement identifiables et qui finissent de fait par connaître des carrières assez similaires. À partir de quand finalement on a observé ce fameux passage d'une sphère à une autre, du privé au public, du public au privé, au cours de la carrière d'un individu, et à partir de quand est-ce identifié comme problématique?
Donc je suppose que vous parlez ici de ce qu'on appelait le revolving doors. Ces passages entre le public et le privé, ils sont pas complètement récents. On peut tout à fait les documenter sur les premières années, y compris de la construction européenne. Moi, ce que je suis en mesure de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils tendent à s'intensifier, qui sont aussi construits en problèmes politiques de façon sans doute plus récente, autour de la question qui avait été posée des années 70 aux États-Unis, de la question de la capture réglementaire, c'est-à-dire du fait que ces circulations entre le public et le privé contribueraient d'une certaine manière à permettre aux régulés, donc en l'occurrence ici les industries, de peser par le biais de ces déplacements d'individus plus directement sur les organes de régulation, soit parce que les recrutements dans les agences de personnes qui sont issues du privé amènent à des recrutements de gens qui sont convaincus de la vision qu'ont les entreprises privées de la situation et vont l'amener avec elles dans l'agence, soit parce que des gens préparent leur départ de ces agences vers le secteur privé et qu'en amont, ils tendent à s'aligner stratégiquement. Bon, en l'occurrence, quand on regarde de plus près, on voit effectivement qu'en tout cas, les circulations vont de pair avec des formes de capacités, des industries parfois pas seulement par ce moyen, mais à peser sur le travail, on va dire, de préparation en amont de la réglementation, a fortiori quand celui-ci est conduit, comme on l'a dit tout à l'heure, Sylvain Laurent, sur dans les agences, et donc on a une série de d'exemples intéressants montrant comment par exemple la circulation très importante entre les salariés du secteur financier et de l'agence en charge de réguler ce secteur financier, comme ça a été montré dans les travaux de mon collègue Giorgos Vassalos, aboutit à en fait à une espèce d'épaissement en amont des projets de réglementation de l'industrie crise financière post 2008. Et on pourrait examiner d'autres exemples. Donc ce revolving door, il s'accentue en effet quand même vraiment, et on arrive à le documenter aussi bien pour les commissaires que pour les parlementaires. Un commissaire sur quatre, un parlementaire sur sept part après son poste dans le secteur privé de la représentation d'intérêts, ce qui est quand même vraiment pas du tout anodin. Et une bonne partie des attachés parlementaires aussi.
Et puis, Cécile Robert, on l'a vu, on arrive relativement à quantifier finalement ce phénomène. Et puis parfois, il apparaît de façon tout à fait brutale et éclatante. C'est notamment ce qui avait eu lieu lors du scandale du Qatargate en décembre 2022, lorsqu'on découvre que des membres du Parlement européen auraient perçu de l'argent en échange de la défense des intérêts du Qatar. Et puis, des fortes sommes d'argent liquide avaient été découvertes au domicile de l'eurodéputée grecque Eva Kaili. Là, Cécile Robert, on se situe un peu dans une autre dimension qui est carrément celle de la corruption, mais qui est très liée finalement à ce phénomène de revolving door, puisque cela impliquait de fait un eurodéputé qui était passé dans le privé. De fait, en termes de régulation, est-ce qu'il faut attendre des scandales pareils pour se réveiller, pour prendre des mesures? Qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui a été mis en place suite au Qatargate?
Alors très vite, oui, à chaque fois qu'il y a eu des scandales, on a eu une fenêtre d'opportunité pour les gens qui défendent plus de réglementation. Suite au Qatargate, on a mis en place un organe éthique européen, mais qui est très critiqué pour son manque de moyens en termes d'investigation et de sanctions de la part, sur les auteurs, de notamment les gens qui sont convaincus de conflits d'intérêts. On a mis en place des mesures de transparence accrues sur les rendez-vous avec les députés, par exemple, sur le personnel de la commission, etc. Mais beaucoup beaucoup d'observateurs considèrent que c'est à la fois insuffisant et surtout ça ne met pas en question plus largement la place du lobbying, la place de l'expertise privée dans la détermination de l'intérêt général européen, ce qui reste un sujet bien plus large que la question des illégalismes.
Merci beaucoup Cécile Robert pour ces explications et merci à vous Sylvain Laurent d'avoir participé à cette émission.